Avec un livre ce matin, un livre qui raconte une histoire de la naissance, l'évolution de la médecine obstétrique avec ses mythes, ses légendes, jusqu'à l'état actuel de nos connaissances. Eh bien, c'est vous qui en êtes l'auteur, professeur René Friedman. Bonjour.
Bonjour.
Faut-il rappeler que vous êtes l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la médecine dite de reproduction et vous avez très largement participé à la naissance du premier bébé éprouvette Amandine, hein, premier bébé in vitro en 1982. L'actualité, ce sera à partir de demain à l'Assemblée nationale. Il s'agira de dire oui ou non à l'extension de la PMA à toutes les femmes, hein, qu'elles soient célibataires ou en couple. Et ce matin, dans le JDD, Christophe Castaner, le patron des députés La République En Marche, souhaite que cette loi de bioéthique soit promulguée dès le mois prochain. Vous dites quoi ce matin, professeur? Enfin, il était temps?
Je crois que oui, il y a eu tous les débats, il y a eu les oppositions, il y a eu les pour. Je pense que l'affaire est pliée et que ça correspond au désir dans notre société. Et donc il faut y aller maintenant. Et parce que c'est pas si simple, hein, quand même, à organiser.
Mais, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que il faut organiser le don de sperme pour les femmes seules. Il faut organiser une écoute psychologique attentive pour toutes celles qui sont dans une difficulté, qui vont rencontrer, je veux dire, un parcours un peu complexe, qui est un parcours médical. Et puis, il faut continuer surtout à rechercher et à améliorer les résultats généraux de la prise en compte médicale, ce qui n'est pas du tout réglé. Et souvent, les phénomènes de société cachent un peu, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que aujourd'hui, mon attention est surtout attirée par le fait que les résultats des traitements ne sont pas à la hauteur des espérances. Il y a encore beaucoup d'échecs et il y a beaucoup de recherches à faire. Et c'est surtout ça qu'il faut favoriser et stimuler. Et là encore, il y a des oppositions.
C'est-à-dire 40% d'échecs, hein, je crois, pour les fécondations in vitro. Dans quel domaine est-ce que ça va pouvoir progresser?
Tout d'abord, il faut constater les choses. Et comme vous le disiez d'ailleurs, 60% des cas d'embryons obtenus qui sont transférés dans l'utérus après une fécondation in vitro, par exemple, ne vont pas s'implanter. C'est-à-dire que la nature humaine n'est pas du tout satisfaisante par rapport à ce qui existe dans le monde animal. Et donc il y a beaucoup d'échecs. Et il faut qu'on comprenne d'une part pourquoi il y a ces échecs, et d'autre part qu'on essaye d'y pallier, en tous les cas d'y faire attention. Donc parallèlement à ces avancées sociétales qui se font jour et qui sont pas liées à la volonté médicale proprement dite, mais qui sont liées à l'évolution de la société, il y a du côté médical une demande de développer des recherches, de pouvoir choisir l'embryon dans sa qualité de développement. Attention, il faut être très précis dans ce qui est énoncé, là, ce que j'énonce. Il ne s'agit pas de caractériser telle ou telle particularité d'un être humain à venir. Il s'agit simplement de savoir à l'avance quel va être le potentiel de développement de cet embryon, quel qu'il soit. Ouais. Je veux dire, on n'est pas là pour aller plus loin.
On va en parler tout à l'heure de ça.
Ouais, si vous voulez.
Cette loi de bioéthique, à partir de demain à l'Assemblée, elle prévoit aussi de lever l'anonymat des donneurs de sperme pour permettre aux futurs enfants d'avoir des informations sur leurs origines. Si cet article est adopté avant la fin de l'été, ça risque encore d'aggraver la pénurie de sperme en France. Comment on répond à ça?
Alors d'abord, c'est pas uniquement le sperme, hein, c'est sperme
c'est aussi les autres,
oui, c'est tout le don en général où il est donc prévu. On verra comment les choses seront votées, mais il est prévu en tous les cas qu'il y ait incontestablement une possibilité pour l'enfant qui est né par ce procédé de remonter en partie à ses origines. Alors je dis en partie, c'est-à-dire que d'avoir des informations non identifiantes, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est un tel ou un tel, mais on sait certaines caractéristiques du donneur ou de la donneuse s'il le demande. Parce que dans cette histoire, il faut bien comprendre que il y a d'une part ce que va dire le couple à l'enfant, il n'est pas obligé, mais on lui conseille effectivement de dire les choses, mais il n'est pas obligé. Il y a l'enfant qui lui peut ou ne peut pas, à sa majorité, vouloir remonter ou considérer que non, ça va très bien, il a été élevé par un homme et une femme qui l'ont aimé et qu'il en reste là. Ou bien il peut essayer d'aller plus loin, mais à ce moment-là, il y a aussi la réponse du donneur ou de la donneuse qui, 20 ans auparavant, a pris une position, mais va-t-il la tenir et peut-il et doit-il la tenir 20 ans plus tard alors que sa vie aura changé? C'est encore une autre question. Donc vous voyez, les débats sont pas terminés à mon avis demain. Et voilà, mais c'est une question d'évolution aussi de la société. Il y a trois grandes évolutions sociétales qui sont indépendantes de la recherche médicale. C'est effectivement l'ouverture de la PMA pour des femmes seules ou homosexuelles, c'est la possibilité de remonter au moins une partie d'informations sur ses origines pour ceux ou celles qui ne représentent que 5%, hein, à peu près, qui auront recours au don de gamètes. Et puis, il y a la possibilité pour les femmes d'autoconserver leur ovocyte si, arrivées à un âge de 35 ans, elles n'ont pas de prince charmant ou de volonté de réaliser la maternité à ce moment-là et de les conserver pour un peu plus tard.
Par la congélation. Je reviens au risque de pénurie des dons. Le risque, c'est d'aller faire tout et n'importe quoi sur Internet ?
Ce risque existe toujours, de faire tout et n'importe quoi, c'est permanent. Mais il faudrait répondre justement à cette question-là de façon un peu organisée. Alors, c'est quoi organiser ? C'est que, incontestablement, il va y avoir un changement des donneurs. Parce que beaucoup de donneurs, jusqu'à présent, voulaient rester dans l'anonymat. À mon avis, on verra si tous doivent quitter l'anonymat ou en tous les cas avoir un semi-anonymat. On verra ça dans la discussion. Quoi qu'il en soit, il faut qu'il y ait un recrutement de donneurs, c'est-à-dire une information. Or, il faut savoir qu'actuellement, je ne sais pas si vous vous rappelez, la date de la dernière campagne nationale pour le don de gamètes.
Vous allez nous le dire.
Oui, c'était en décembre dernier, qui est passé d'ailleurs, qui passe souvent à l'AS, parce que en France, on n'a pas le droit de faire des informations, par exemple, dans les facultés, dans les spectacles, à l'hôpital, surtout à l'hôpital, parce que c'est quand même le lieu où il y a pas mal de gens sensibilisés. Et moi, je pense qu'il faudrait mettre en place, quand je disais que c'était un peu compliqué, c'est qu'il faut mettre en place un système où il peut y avoir une information donnée à des gens qui sont sensibilisés. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes en France qui sont volontaires pour un don de gamètes. Mais il faut être accompagné, c'est pas un geste et un acte qui se fait en appuyant sur un bouton. C'est quelque chose qui est un engagement. Et donc, ce dont je rêve, personnellement, c'est qu'il y ait, si vous voulez, dans chaque hôpital, centre de fécondation en particulier, qu'il y ait un personnel dédié, qu'il soit psychologue, sage-femme, infirmière, mais dédié, qu'il soit formé, et qu'il puisse répondre aux questions et accompagner aux questions, ouvertement. Un petit stand, quoi, quelque chose qui soit ouvert. Tant que ça c'est pas fait, on tourne autour, faut-il payer, rémunérer les donneurs et tout ça. Ce qui se fait beaucoup à l'étranger, comme vous savez. Et on tombe dans une commercialisation qui n'est pas, à mes yeux, souhaitable. Encore faut-il qu'on fasse l'effort.
Oui, voilà. René Friedman, j'aime votre lyrisme quand vous parlez de prince charmant, comme vous l'avez fait tout à l'heure. 40 ans de pratique et plusieurs milliers d'accouchements à votre actif, vous avez participé en premier plan à ce changement radical de la reproduction ces dernières années. Est-ce que, et là pour reprendre ce qui est dit dans votre livre, naître au monde est d'une éblouissante splendeur, vous reprenez là les propos d'Edouard Glissant, est-ce que c'est une vérité éternelle, universelle ?
Écoutez, au moment de la naissance, il y a un moment qui est extraordinaire, qui est fugace, et je regarde souvent, quand j'ai un peu de distance, je regarde souvent les yeux de la femme qui est en train de découvrir ou qui vient de réaliser cet acte de naissance et l'homme qui est à côté. Et ça, je pense, oui, qu'il y a le merveilleux, il est là. Après, écoutez, c'est la vie, hein. On est dans un environnement, dans des conditions, dans des difficultés éventuelles, ou pas, d'ailleurs. Mais à ce moment-là, d'ailleurs, vous le savez très bien, si vous lancez la discussion sur la naissance dans une assemblée à table ou pas à table, tout le monde y va de son expérience parce que ça tient tellement à cœur.
D'ailleurs, si politiquement les jeux semblent être faits pour cette loi bioéthique qui sera probablement adoptée dans ses grandes lignes, en revanche, dans l'opinion, notamment sur la PMA, ça coince toujours. La manif pour tous appelle à manifester demain et mardi pour, je cite, défendre le droit pour un enfant d'avoir un père et une mère. Comment est-ce que cet argument résonne à vos oreilles, professeur Friedman ?
Il résonne, si vous voulez, avec beaucoup d'attention. C'est-à-dire que je pense qu'une femme qui est seule, par exemple, elle doit être pensée à l'éducation de cet enfant et savoir que avoir des grands-parents, avoir des amis, avoir de la famille est extrêmement important pour l'éducation des enfants. Mais le père, en tant que père biologique présent, on peut le souhaiter. Mais vous savez, on a tous des rêves d'absolu. Mais la réalité n'est pas celle-là. Et la réalité, elle montre qu'il y a des trous dans la raquette ici et là.
Et le rêve d'enfant parfait aussi, ça existe, vous en parlez?
Oui, bien sûr, j'en parle parce que qui n'évoque pas j'ai envie de dire ce fantasme, parce que c'est un véritable fantasme. C'est-à-dire que ce que souhaite vraiment un couple, une femme qui est enceinte, c'est que son enfant ait toutes les capacités de se développer. Mais la perfection, on sait très bien que, enfin, pour ceux qui veulent être raisonnables, que ce n'est pas de ce monde, que nous sommes tous porteurs de tares physiques qui s'expriment ou qui ne s'expriment pas, ou de problèmes psychologiques qui s'expriment ou qui ne s'expriment pas. Donc, la perfection, elle doit être comprise comme l'absence de handicap à l'exercice d'une vie la plus large possible. Et c'est déjà énorme, bien entendu. Et ça, c'est toute la médecine anténatale qui a été une partie de ma vie la plus difficile, au sens où quand il y avait des problèmes à l'échographie ou bien dans les prises de sang qui montraient qu'il pouvait y avoir une anomalie, c'est très difficile de projeter ce que va être la vie de cet enfant beaucoup plus tard.
Parce qu'on sait aujourd'hui diagnostiquer les embryons qui seront implantés, est-ce que le risque d'eugénisme est toujours d'actualité, un risque qui permettrait de choisir non seulement le sexe de l'enfant mais aussi pourquoi pas de retirer des maladies héréditaires?
Alors, le risque d'eugénisme, il existe toujours. Il a existé avant la fécondation in vitro, il existera après. Ça, c'est clair. Donc, ça demande une vigilance de toute façon. Mais encore faut-il savoir qu'est-ce que c'est que l'eugénisme. L'eugénisme, c'est d'imposer à une population, sans exception, telle ou telle attitude. C'est-à-dire, on n'accepte pas des enfants qui seraient avec telle ou telle caractéristique, y compris d'ailleurs les trisomiques, puisqu'on en parle beaucoup. Le problème que nous posons là n'est pas celui-là. Le problème, et je commençais à en parler en début d'émission, c'est de pouvoir reconnaître les embryons qui vont s'implanter ou ne pas s'implanter. Pourquoi ? Parce que sinon, vous transférez délicatement un embryon dans l'utérus après obtenu in vitro, et s'il n'a pas les caractéristiques pour se développer, c'est un geste pour rien, qui va se terminer par une fausse couche, qui va se terminer par une complication, parfois une grossesse extra-utérine, et puis surtout par une déception terrible. Donc pourquoi imposer cette violence aux femmes et aux couples, alors qu'on pourrait avoir une connaissance sur le potentiel? Je parle bien du potentiel. C'est très différent. Par exemple, le sexe que vous évoquiez, je ne vois pas l'utilité de rechercher le sexe. Il y a beaucoup de pays qui font cette recherche de potentiel, ne recherchent pas le sexe. C'est même totalement interdit, comme au Canada. Donc on pourrait très bien, si vous voulez, avancer vers une meilleure prise en charge et information. Ce qui me semble important à dire, pour ceux qui ont peur et qui sont contre, c'est que si, par exemple, moi, médecin, je fais le diagnostic d'un embryon qui est porteur de telle anomalie, mon rôle n'est pas de le mettre à côté, sous ma propre décision, il est d'informer les parents. Et si les parents souhaitent malgré tout qu'on fasse le transfert et éventuellement obtenir la naissance de cet enfant, nous devons nous y plier. C'est eux qui
décident. Vous racontez tout de même de René Friedman l'exemple de ces deux femmes sourdes qui voulaient adopter un enfant sourd. Certains médecins peuvent aussi faire n'importe quoi ou déraper.
Ah, non, mais écoutez, dans un chapitre, je raconte aussi des excès. Cette femme qu'on appelle Octomum, qui s'est fait réimplanter 8 embryons, qui a eu accouché de 8 enfants très prématurés. Mais il y a un médecin quand même qui a fait ce genre de choses. Donc, ne me faites pas dire que je ne suis pas pour des limites raisonnables. J'étais simplement en train de répondre à votre question, qui est tout à fait légitime, de savoir que l'eugénisme, c'est quelque chose qui fait peur et sur lequel il faut être vigilant. Mais encore faut-il bien le définir et pas plaquer des images que l'on rejette totalement et qui sont liés aux événements que l'on connaît de la dernière guerre et d'autres attitudes au début du siècle précédent.
Et vous-même, René Friedman, entre la science qui avance d'un côté et la boîte à fantasmes de l'autre, vous n'avez jamais douté ?
Écoutez, si, Si, j'ai, bien sûr que si, j'ai douté, je me suis posé des questions. D'ailleurs, j'ai évolué des fois. J'ai pas toujours été d'accord avec moi-même à tout moment. C'est ce que je raconte un peu dans le livre, parce que vous êtes pris effectivement par des projets mythiques, par des projets des nouveautés. Par exemple, aujourd'hui, on a fait la première naissance après greffe d'utérus, il y a quelque temps à l'hôpital Foch où je travaille avec Jean-Marc Ayoubi. Voilà, c'est une technique qui est lourde, qui est extraordinaire quand on voit la naissance de la petite Micha là, il y a 2 mois. Maintenant, il faut qu'on refasse d'autres tentatives, ici ou là, dans le monde, puisqu'il y a à peu près 20 d'enfants qui sont nés pour les femmes qui n'ont pas d'utérus et à qui on peut greffer un utérus. Maintenant, est-ce qu'on va continuer à le faire? Ça demande à être évalué. Moi, je suis pour initier les choses, développer la nouveauté, mais aussi l'évaluer, se donner le temps et la nécessité scientifique d'évaluer ce qu'on fait.
Professeur Friedman, le désir d'enfant, il est à la fois omniprésent, inintelligible, hein, parfois pour les autres comme pour soi. La stérilité, c'est un mystère ancestral. Et là, comme dans votre livre, vous mettez tout en perspective, vous parlez notamment de Sarah dans la Bible. Donc en fait, on est aussi dans la science la plus pointue et l'irrationnel.
Alors, c'est une des difficultés, je dirais, de la chose. C'est que c'est très difficile de dire à quelqu'un, vous savez, ça ne peut pas marcher, c'est terminé, voilà, fermez la boutique, voilà. Parce qu'on a toujours des histoires de chasse et des surprises complètement irraisonnées à 45 ans, 46 ans, une grossesse naturelle, après un parcours pas possible. Simplement, je peux pas le prescrire sur ordonnance. Et je peux pas non plus, pendant 10 ans, traiter, assommer d'hormones. Et donc, il faut à un moment donné faire un équilibre entre ce désir d'enfant et les modalités que l'on peut proposer. Mais il est vrai, si vous voulez, que... pourquoi, vous savez, on me pose souvent la question, dites-moi docteur, pourquoi ça n'a pas marché? Ah, j'ai dit, bon, voilà, des fois on sait, mais des fois on ne sait pas. La plupart du temps, on ne sait pas. Mais je leur dis souvent, vous savez, si vous me demandiez pourquoi ça marche, alors que vous êtes enceinte, je ne saurais pas vous répondre, pas plus. Donc il y a une part, effectivement, mais tout est une part de mystère. Vous savez, pourquoi il y a tant de fausses couches? Pourquoi l'accouchement se déclenche tel jour et pas tel autre jour? Il y a énormément de choses à comprendre et à connaître. On en connaît déjà beaucoup plus que le siècle dernier. Mais quand même, il y a, et c'est peut-être un bien quelque part, qui est un peu de, comme dirait glissant, un peu d'éclatante naissance.
Une histoire de la naissance. Je peux vous demander combien de faire-part vous avez reçu depuis 40 ans de carrière?
Ah, écoutez, je ne les ai pas comptés. Je les ai dans 2 caisses dans ma maison, dans mon grenier.
Merci beaucoup.
Et voilà, c'est un grand plaisir.
René Merci Friedman, je rappelle le titre de votre livre, hein, Une histoire de la naissance, paru aux éditions Grasset. C'est aussi une série de podcasts mis en boîte par nos confrères de France Culture. 32 épisodes qui sont à retrouver sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Merci beaucoup d'être venu en parler ce matin sur France Inter. Bonne journée, professeur Friedman.